Port d'Albret FM. Des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes.
J'ai testé pour vous, avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un atelier manga à Souston, atelier accueillant un petit groupe de participants pour laisser plus de place au conseil de Steven Lejeune, illustrateur et auteur de bande dessinée, qui anime cet atelier d'1h30 le vendredi en fin de journée. Ce soir-là, nous sommes 7, des ados mais aussi des adultes, venus là pour approfondir leurs connaissances et pour apprendre. Me voici donc installée à la table d'activité dans la salle de l'association L'Art et Création, au pôle Rezano, pour découvrir comment on peut s'initier à l'art du manga et pour tester pour vous cet atelier.
portdalbretfm.fr.
Steven Lejeune, bonjour, vous êtes dessinateur de BD depuis plus d'une vingtaine d'années déjà et vous animez à Souston un atelier manga au sein de l'association Art et Création. Et c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés pour cette émission J'ai testé pour vous. Alors si on parlait un peu de cet atelier qui fonctionne depuis cette année seulement, dites-nous à qui s'adresse-t-il, quelle est votre cible ?
Eh bien bonjour, au début... L'idée, c'était de proposer ça à des adolescents autour de 14 jusqu'à jeune adulte, mettons. Puis finalement, ça s'est élargi au panel, c'est-à-dire que les plus jeunes élèves ont 9 ans. Donc c'est jeune, mais ça implique qu'ils soient très motivés. Donc c'est le cas de mes jeunes élèves, du coup. Et j'ai des adultes aussi.
Voilà, j'allais dire, j'ai vu aussi des adultes. Donc finalement, vous avez dépassé le cadre que vous aviez défini au début. Quel était le but de cet atelier ? Qu'est-ce que vous étiez fixé comme objectif ?
Me soulager de ma production mensuelle en professionnel, en bande dessinée. Et puis aussi, pour me changer un peu, voir si j'avais discuté avec des collègues sur des festivals qui me disaient « Ah, tu vas voir, c'est très gratifiant de restituer ce que tu sais, ça permet de dissiper les doutes que tu peux avoir au sujet de ton propre travail, parce que tu te rends compte quand tu diffuses tes connaissances que finalement t'en sais pas mal sur le sujet ». Et du coup, j'ai pu vérifier ça.
Qu'est-ce que vous partagez donc avec ceux qui participent à l'atelier ?
L'idée de départ, c'est de faire du manga. Le manga, c'est raconter une histoire, donc avec des codes visuels et de narration japonais. Et puis, en fait, au final, ça se résume à du dessin. Et le dessin, ça se résume à deux principales règles qui sont les proportions et la perspective. Donc, pour certains, je me retrouve à enseigner les fondamentaux.
Ce qui semble essentiel, ce qui les a peut-être surpris, mais j'ai cru comprendre qu'ils acceptaient bien ces fondamentaux, qu'ils ont vu que sans ça, ils ne pouvaient pas progresser.
C'est ça. Certains comprennent ça plus rapidement que d'autres. Et puis pour certains, finalement, la narration et toute cette partie que moi, je pensais au cœur du cours, finalement, c'est pas ce qui les intéresse. Certains sont plus dans la forme, avec une démarche plus d'illustrateur.
C'est-à-dire qu'ils sont venus là, mais ils n'avaient pas compris qu'il n'y avait pas que le dessin, qu'il y avait aussi une histoire derrière.
J'ai l'impression. Je ne sais pas ce qui... Comme l'idée, c'est que chacun se fasse plaisir. L'idée, c'est que ce ne soit pas le bagne. Donc, quand j'observe qu'un ou une élève a plus d'inclinaison pour juste faire une illustration, pour que ce soit joli, je force pas à faire une histoire, en fait. J'essaie de les pousser dans ce qui leur plaît.
Les attentes des participants, selon vous, elles sont lesquelles ? C'est autour du manga ? C'est autour de techniques ? Ou c'est autour d'autres choses ?
J'ai le sentiment qu'ils aiment bien l'espace de liberté qu'offre le dessin. Que ça leur permet de décompresser d'après la semaine, parce que j'ai un créneau qui est en fin de semaine, donc parfois ils sont un peu... soit excités ou fatigués par leur semaine et du coup moins enclins à se presser le citron parce que le dessin c'est la liberté tout ça, mais c'est aussi un exercice mental assez rigoureux. Dès qu'on parle de perspective, il faut vraiment parfois se creuser un peu la tête et ça sous-entend un effort que parfois ils sont pas forcément prêt à fournir à ce moment-là. Donc du coup, je tente de trouver des petits subterfuges pour qu'ils s'amusent tout en apprenant.
Le petit subterfuge de vendredi dernier, c'était de leur proposer de faire la page de garde d'un manga. Donc on va en parler un petit peu, comment sur 1h30 on peut arriver à les accrocher et quelles sont les productions, les difficultés ou les succès que vous avez pu noter.
Alors, déjà pour cette idée-là, il faut que je rende à César ce qui lui appartient. C'est mon épouse qui m'a soufflé le sujet. Moi, pour ma part, j'identifie pas mal le métier de dessinateur à un boulot de marathonien. Donc, dans mon idée préconçue des cours, chacun arrive avec son projet qu'il veut mener à terme. Et moi, je suis là plus pour guider chacun dans son parcours. Et comme c'est pas forcément les envies des uns et des autres, mon épouse m'a suggéré tiens, fais quelque chose qui soit gratifiant assez rapidement et dont il puisse avoir un résultat concret et tangible dans l'espace d'un seul cours. Et force est de constater que c'est pas une mauvaise idée parce que le fait d'avoir de produire une couverture avec une maquette et tout ça, c'est en soi un produit fini, quoi.
On a vu effectivement des productions avancer relativement vite. Alors là, il y a un travail sur l'espace, décrypter la couverture, organiser les formes sur la couverture. Et puis, il y a tout ce qui est typographie aussi qui leur a demandé un effort.
Oui, normalement, dans le cadre professionnel, ce sont des métiers différents. Ça. Donc, mais bon, là, pour l'occasion, tout le monde s'est prêté au jeu. Bon, certains sont allés plus loin que d'autres, mais bon... C'est comme ça, quoi.
Du coup, dans cet atelier-là, vous êtes obligé de faire attention à chacun, puisque chacun a un projet, chacun a un niveau différent, chacun a une attente différente, et vous circulez de l'un à l'autre en apportant votre petite touche experte par rapport à ce qui est en cours.
C'est ça, c'est la manière dont j'avais appris quand j'étais en position d'étudiant. En fait, j'ai pas fait de cursus scolaire à proprement parler, mais j'ai eu des maîtres, et en l'occurrence, c'était l'atelier Gotfordom à Aix-en-Provence, donc ceux qui produisent l'Enfeuse, Troll de Troie, tout ça. Et c'est ce qu'ils faisaient, les professeurs, ils passaient d'un élève à l'autre et ils tournaient comme ça, ils faisaient des tours de table. Donc je fais la même chose. Donc parfois, s'il y en a un qui a une interrogation, il est obligé d'attendre que j'ai terminé avec le précédent, parce que souvent le conseil s'illustre par un petit dessin pour permettre d'avancer plus rapidement à celui qui bloque sur son dessin, quoi.
Participer à cet atelier manga, c'est aussi apprendre à utiliser l'espace des cases et une narration un peu particulière. Quelles sont les aides que vous pouvez apporter dans ce domaine ?
Si, dans le cas d'un des élèves, il est arrivé avec une idée qu'il avait construite avec un de ses camarades de classe. Donc il était arrivé avec une ébauche de page. Et du coup, on a repris sa page ensemble, et à chaque fois, en y incluant perspective et sens de lecture, enfin toutes les petites règles de lecture que moi j'ai acquises au fur et à mesure, et qu'on peut pas savoir à moins qu'on, enfin, on peut les déduire en lisant beaucoup, mais si quelqu'un nous les donne. Directement, on gagne pas mal de temps, quoi. Donc c'est peut-être l'intérêt de mon cours.
Quelle satisfaction personnellement retirez-vous de cette pratique-là, qui est nouvelle dans votre parcours du coup ?
Eh ben, quand je vois quelqu'un qui arrive avec au bout de ce qu'il avait commencé et qu'il est surpris lui-même du résultat, ça fait vraiment très très plaisir.
Jusqu'ici, pour sauver tous les hommes. lesquels il y a aussi, tu vois, ta douce amie Joanne, frégolo et malade, qui ne te quitte pas. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit.
Générique du dessin animé Capitaine Flamme, un dessin animé des années 70-80 qui a marqué avec Albator, Goldorak, Dragon Ball ou les merveilleuses cités d'or l'apparition du manga animé sur nos écrans en France. Retour maintenant à Souston, à l'atelier manga animé par Steven Lejeune, dessinateur et créateur de bande dessinée au sein de l'association L'Art et Création, pour en savoir plus sur le manga.
J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Alors on va parler manga un petit peu particulièrement. Vous avez choisi une approche via le manga. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le manga aussi ?
Alors le manga, c'est ni plus ni moins que de la bande dessinée, mais faite par les Japonais, mais avec tout un tas de codes différents. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est en noir et blanc. Le contenu est en noir et blanc. Une pagination très importante qui implique un sens de l'ellipse radicalement différent de ce qu'on a en France. Et l'ellipse, en fait, c'est le temps qui est implicite entre deux images. Les Japonais, comme ils disposent de plus de pages, ils peuvent se permettre des effets cinématographiques, d'accélérer, de ralentir. Et ça permet une variété de mise en scène bien plus riche que la BD franco-belge, par exemple.
Pourquoi le noir et blanc ? Vous pouvez nous expliquer ?
Je suppose que c'est surtout lié à des contraintes financières de la part des Asiatiques. Parce que le marché est complètement différent au Japon. Dans un premier temps, il s'est consommé en presse. Le manga est consommé en presse avec un certain nombre de pages par série qui sont regroupées dans des espèces d'annuaires. Et les titres qui sont les plus appréciés du public voient une parution en petit format poche, comme on peut acheter en France, en fait. Et cette consommation en presse est vraiment très peu onéreuse, donc sur du papier de basse qualité. Donc si on imagine que tout ça devait être en couleur, on n'aurait pas cette facilité d'accès. Quand on pense au prix d'une bande dessinée franco-belge, donc avec une couverture cartonnée et puis toutes les pages en couleur, c'est pas du tout le même prix, par exemple.
Vous pouvez nous dire pourquoi le manga se lit à l'envers, s'il vous plaît ?
Je l'ignore. Je pense que c'est peut-être lié au sens de lecture des caractères japonais, mais je ne sais pas fondamentalement pourquoi ça se lit en miroir.
En tout cas, c'est une spécificité du manga.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres codes dans le manga ?
Alors, il y a souvent, on a tendance à associer les personnages manga avec des yeux assez grands et des petits nez, des petites bouches, mais en fait, il semblerait que ça, ce soit issu d'une japonisation des cartoons américains qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, et c'était principalement pour des histoires de lisibilité, c'est-à-dire que quand on a des personnages qui sont vus d'assez loin, on pouvait toujours lire les expressions si on mettait des yeux plus grands, par exemple. C'est aussi pour cette raison, par exemple, les cartoons américains avec quatre doigts, parce que c'était plus simple à dessiner, quoi. Et C'est la digestion de ces codes américains qui a donné ça au Japon. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que partout sur Terre, ben les codes japonais ont été adoptés et sont à leur tour digérés pour faire quelque chose de, ben, qui évolue.
On associe souvent le manga à la violence. Qu'est-ce que vous en dites ?
Que c'est très restrictif. Il y a pratiquement un manga pour chaque activité sur Terre. Il y a des... C'est arrivé en France avec le Club Dorothée, donc avec beaucoup d'ouvrages qui tournaient autour de la bataille, de la bagarre et tout ça. Donc forcément, oui, on dit que c'est violent, mais en même temps, les films américains, c'est pas toujours pisse non plus. Hein. Et ce serait compliqué de résumer le cinéma américain à juste de la violence. Il y a plus de richesse, donc là, je pense que c'est vrai aussi pour le manga.
Alors on va parler du Club Dorothée, justement, c'était l'époque d'Albator, entre autres, et puis c'était Recréa 2, avec le manga qui était donc sous forme de film et qui a été supprimé de l'antenne parce que justement on l'a taxé de trop de violence et parce qu'on en avait un petit peu assez au niveau du CSA de l'époque de ces dessins animés japonisants. Alors moi je voudrais savoir, on parlait de violence, mais on s'aperçoit que maintenant il y a des mangas pour les filles, manga filles, manga garçons. C'est une tendance tout à fait récente, je crois.
Oh, ça fait un moment quand même. Hein. Comme je vous disais, au Japon, il y a des mangas qui s'adressent à tout type de public. Alors, globalement, il y a les shoujo pour les garçons, les shonen pour les filles. Donc là, c'est plus des histoires de romance et tout ça. Mais bon, il y a tout ce qui est sport. Donc, il y a peut-être un manga pour chaque sport. Il y a des déclinaisons, pas infinies, mais quasiment. Donc, ça fait longtemps que c'est là, mais peut-être que c'est plus récent, cette arrivée de différentes catégories en France. Et puis on observe aussi un lectorat féminin grandissant dans notre pays. Donc c'est peut-être ça qui donne cette idée.
Alors moi j'ai lu quelque part qu'aujourd'hui la France est le plus gros consommateur de manga, après le Japon quand même. Et que ça représente 40% des ventes de bandes dessinées, le manga.
Ça ne m'étonne pas, ça doit être vrai. Je pense que la France, on est très poreux. On est des grands consommateurs d'art et de littérature et c'est un véritable hub. On accueille le comics américain, on accueille toutes sortes de bandes dessinées qu'elles viennent de Chine, d'Amérique du Sud, d'Espagne, d'Italie, maintenant de Corée. Ça amène une grande, grande richesse. Après, c'est dur pour nous, auteurs français, je pense, de tirer notre épingle du jeu au milieu de ce marché non protectionniste, mais je pense que c'est pour le mieux, enfin, en tout cas, du point de vue du lecteur, c'est pour le mieux, sans doute.
Eh bien, ce sont ceux qui pratiquent qui en parleront le mieux. La parole est maintenant à Thiago et Benjamin, qui ont bien voulu témoigner de leur pratique au micro de Port d'Albret FM, juste avant une pause musicale, un petit clin d'œil à la bande dessinée.
PortdAlbretFM.fr.
Alors Thiago, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu viens à cet atelier manga ?
Moi, j'aime le manga depuis que, j'ai 5 ans. Je dessine beaucoup... presque tous les jours et en fait je viens là parce que Steven, ce que j'aime bien chez lui c'est que c'est un professionnel et il nous vraiment fait découvrir ses techniques et il nous donne des conseils et moi j'aime bien, voilà.
Qu'est-ce que tu as appris par exemple?
Par exemple il m'a appris à faire la construction d'un bonhomme, enfin je savais le faire mais je le faisais pas bien et après il m'a fait améliorer ma perspective parce que j'adore ça et je veux être architecte plus tard, donc voilà. Après, il m'a appris quoi d'autre à dessiner, enfin pas à dessiner, mais par exemple, le cours dernier, il avait amené des objets, on devait tous les dessiner, donc c'était bien.
Bon, je te souhaite bon courage pour ton futur projet de manga que tu fais ici à l'atelier.
Merci et vous aussi, bon courage.
Alors Benjamin, toi, pourquoi tu viens à cet atelier manga ? Qu'est-ce qui te plaît ?
Moi déjà, je me suis dit que je vais venir parce que je fais déjà un manga, moi, avec un copain. Et du coup, je me suis dit, bah, ça serait bien, comme ça, je pourrais m'entraîner encore plus pour redétailler des choses qu'on a déjà commencé avec mon pote. Et du coup, je suis venue aussi parce que, bah, pour m'améliorer en dessin.
Qu'est-ce que tu as appris en dessin que tu ne savais pas avant ?
Bah, déjà que je savais déjà qu'il fallait faire des croquis, mais pour les personnages, par exemple, je ne savais pas du tout comment faire. J'arrivais juste à faire le visage. Après, il y avait les techniques de perspective, de lumière, que je ne connaissais pas. Et aussi les ombres et lumières. Je n'arrivais pas à les placer.
Pour faire un bon manga, il faut dessiner. Et puis, il y a aussi une histoire. Tu y penses à l'histoire que tu vas écrire ?
En fait, ça fait maintenant 3 ans que je le fais avec mon pote. Du coup, on a déjà commencé à créer l'histoire. Et en vrai, c'est assez dur à dessiner. Du coup, les présentations de notre manga. Parce que c'est les feuilles des mangas, bah, en fait, elles sont pas petites comme on les a, mais en fait, elles sont vraiment très grandes parce que ça serait quasiment impossible de faire autant de détails sur une seule case. Bah, déjà, on utilise la règle pour faire les cases. Le crayon, du coup, pour faire croquis, pour améliorer. Après, on doit ancrer pour quand on est sûr de soi. Parce que si on encre et qu'on rate, par exemple, on dépasse un petit trait, bah du coup, il faut tout recommencer.
C'est un travail difficile, alors.
Oui, très difficile.
Minutieux, je vais dire.
Ah oui, plutôt minutieux.
Merci beaucoup, Benjamin.
De rien.
J'ai testé pour vous, avec Chantal sur Port d'Albret FM.
Steven Lejeune, vous êtes dessinateur et auteur de bande dessinée avant tout, depuis un sacré bout de temps maintenant. On va parler un peu de vous, de votre métier, de votre parcours. Comment vous est venue d'abord cette idée de faire de la bande dessinée votre métier ?
J'ai toujours été attiré par le dessin et puis aussi pour me divertir moi-même avec mes propres dessins. Donc, j'ai jamais trop considéré le dessin sans une histoire. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait des pages, mes petites histoires. Et puis, j'ai pas tard, tout à l'heure, je mentionnais l'atelier Godfordom à Aix-en-Provence. Et comme j'ai fait mon collège et mon lycée là-bas, un jour, je voyais des gens qui dessinaient par la fenêtre. Donc, un jour, j'ai tapé à la porte. Et puis, de fil en aiguille, j'y ai pris des cours qui m'ont fait gagner pas mal d'années précieuses. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves, mais à une autre échelle. Bah, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à avoir mon premier contrat professionnel assez jeune, en fait. Et comme ce que je cherchais, c'était parvenir à échapper à avoir un patron, les embouteillages, tout ça, le matin, la BD, c'était bien, quoi.
Quelles sont les qualités qu'il faut, selon vous, pour faire ce métier-là ?
Il faut être pugnace. Il faut vraiment avoir ça dans le sang, je pense.
Et vous aviez ça dans le sang. Alors, depuis plus de 20 ans, je crois, vous pratiquez, vous avez vu évoluer ce métier, évoluer les techniques. Vous pouvez nous parler un petit peu du début et puis de maintenant, qu'est-ce qui a changé ?
Alors, je me rappelle, mes toutes premières planches publiées dans l'Enfeust Mag, justement, elles ont été colorisées à la main avec des bleus et celluloïdes, c'est-à-dire qu'on imprimait une version réduite de la page sur un papier assez épais qui pouvait supporter une mise en couleur avec des gouaches, des écolines, enfin peu importe. Et la version noir de la page était sur un rhodoïde plastique qu'on superposait aux couleurs. Donc ça, c'est un procédé qui est quasiment disparu aujourd'hui, puisque la plupart des mises en couleur se font numériquement. Soit ça, soit ce qu'on appelle de la couleur directe, où là, le dessinateur fait produit comme une espèce de tableau qui va être directement scanné, quoi.
Maintenant, on gagne du temps, c'est ce que vous voulez dire ?
Oui, et puis surtout maintenant, on peut faire sa mise en couleur tout en voyant le produit fini. À l'époque, quand il y avait ce système de plastique, on faisait ses couleurs, on trouvait ça très joli. Et puis quand on superposait le noir, on redécouvrait sa page, ça aplatissait un peu tous les contrastes et tout. Enfin, je me rappelle à l'époque, je me suis dit, mais monde, quelle horreur, quoi. On est content. C'était l'ascenseur émotionnel en permanence, quoi. On était content de ses couleurs, et puis quand on voyait le résultat final, c'était plus du tout ça. Et quand j'ai commencé à faire des couleurs à l'ordinateur, là, du coup, c'était waouh, l'infini des possibilités qu'offrait l'ordinateur, c'était inédit. Maintenant, il y a tout un tas de couches d'outils qui sont rajoutées à ça. On n'a même plus besoin. Enfin, beaucoup d'auteurs ne font même plus de planches originales. Ils font tout directement à l'ordinateur, quoi. Donc il y a plus de, enfin le crayonné, l'ancrage, tout ça se fait sur le même fichier numérique. Moi je fais toujours mes planches sur du papier parce que j'aime bien. Mais si vous voulez l'ancrage au pinceau, je me suis rendu fou pour pas trembler quand je faisais ça. Puis maintenant ça sert à rien parce que il y a une assistance, pas une IA mais une assistance informatique qui vectorise le trait, qui fait un joli plein, un joli délié. Il n'y a plus besoin de maîtriser l'outil de la même manière.
Concrètement, comment on fait une BD ?
Tout d'abord, il faut une bonne histoire. Ensuite, il faut des bons dialogues. Donc, une fois qu'on a fait son découpage, son scénario, donc on détermine le nombre de cases qu'il y a dans chaque page, ce qui se passe dans chacune des vignettes, donc des cases, quels y sont les dialogues. Ensuite, dans un second temps, on fait une ébauche. Donc, moi j'appelle ça rough, mais bon, certaines personnes peuvent appeler ça autrement. Une ébauche de graphique de la page. Et puis ensuite, on attaque le dessin poussé. Ensuite, on encre ce dessin, c'est-à-dire que à l'encre de Chine. Donc là, à la fin de cette étape-là, on a la page en noir et blanc. Et ensuite viennent les couleurs.
Il y a un parallèle entre le cinéma et la bande dessinée?
Alors, tout à l'heure, quand je parlais des codes des mangas et du sens de l'ellipse et du rythme qui peut être donné, clairement, le manga a une approche vraiment très cinématographique de la narration qui aujourd'hui prime sur tout le reste. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec les Côtes des Savanes et les Fruits Glaciales de mon père. Donc ça, c'est dans les années 70, on n'était pas encore trop là-dedans, en fait. C'était assez pionnier, ça partait dans tous les sens. Les cases, elles étaient cassées enfin, on avait des personnages qui sortaient, qui passaient d'une case à l'autre. Enfin, c'était très libre et farfelu, en fait. Aujourd'hui, ça me semble plus systématique et sérieux comme approche, quoi.
Ce que j'ai entendu, c'était que la narration primait sur le dessin.
Oui, pour dire les choses simplement, on peut avoir une BD magnifique, mais avec une histoire passable. Si les dessins sont magnifiques, ça va quand même vous tomber des mains. En revanche, si vous avez une super histoire et que le dessin est très moyen, il y a fort à parier quand même qu'on fera abstraction du dessin qui ne nous plaît pas tant que ça, si l'histoire est prenante.
Dans votre pratique, dans votre métier, vous avez des projets personnels ou vous répondez à des commandes ou peut-être les deux?
Un peu les deux. Le truc, c'est que les projets personnels, il faut les développer sur du temps libre et simplement répondre à mes projets en cours me prend pas mal de temps. Et si j'ai du temps libre, je vais faire un peu de sport quand même.
En échangeant avec vous, je me suis aperçue aussi que pour répondre à certaines commandes, vous êtes obligé de vous plonger dans des archives, dans des recherches qu'on n'imagine pas avant. Vous pouvez illustrer cet exemple-là dont je parle?
Oui, alors concrètement, là, j'ai terminé une série qui traite de l'histoire du pain, donc ça se passe avec des boulangers. Il a fallu se documenter, ça commence dans les années 30, ça finit dans les années 60, 70, quoi. Donc à chaque fois qu'on bouge dans le temps, il faut faut pas d'anachronisme ou le moins possible. Donc à chaque fois, ça sous-entend de se documenter. Là, maintenant, je suis en train de dessiner quelque chose qui se passe dans les années 50 aux États-Unis. Donc j'ai dû faire une scène qui se passe pendant la guerre de Corée. Donc il a fallu que je cherche les uniformes des Chinois, des Américains, que je regarde l'architecture des petits villages de là-bas à l'époque. Enfin, à chaque fois, ça sous-entend documentation. Surtout que là, le projet sur lequel je suis est historique, donc du coup les protagonistes ont vraiment existé, donc là ça sous-entend en plus de tenter de faire des portraits qui approchent du modèle réel, quoi.
Et dans vos projets personnels, quelles seraient vos influences?
Mes influences? Voilà, j'ai un projet que je me traîne depuis une dizaine d'années mais que j'ai du mal à développer, et c'est autour du monde des échecs, le jeu d'échecs.
Vous jouez aux échecs?
Ouais, j'aime beaucoup.
Dites-moi, vous avez un atelier chez vous?
Oui.
Alors, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous faire une visite comme ça, audio, de votre atelier? Quand on rentre, qu'est-ce qu'on voit? Allez, on fait le tour de la pièce avec vous.
Vous voyez le cafouche de Gaston? Ça ressemble à ça. Il y a du bazar dans tous les sens. J'ai ma table à dessin qui trône pas loin des fenêtres. J'ai une Cintiq, c'est une espèce de télé sur laquelle on dessine directement. Donc ça, c'est mon ordinateur. Donc celui-là, il n'est pas relié à Internet, comme ça je ne suis pas parasité par tout ce qu'on peut faire sur Internet. Après, j'ai ma bibliothèque de BD adulte, pour pas que ma fille tombe dessus. Et puis j'ai aussi une espèce de... j'ai toutes les toiles et choses que j'aimerais bien faire quand j'ai le temps. Parce que j'ai des velléités de peintre, mais bon, c'est un grand mot. J'aimerais bien, ça me changerait des petites vignettes en noir et blanc, faire des grandes images en couleur.
Et des cartons au dessin, et des crayons, et de l'encre.
Oui, mais comme vous pouvez voir, mon bureau il tient dans mon sac à dos, donc c'est pas ce qui prend le plus de place. Le matériel de peinture, ça c'est autre chose par contre.
Vous travaillez en silence ou en musique ?
Ça dépend. Avant, je travaillais en musique, mais là, depuis quelques années, j'écoute des conférences.
Des conférences sur quoi donc ?
Un peu de tout. À un moment donné, je me suis renseigné sur la vie des grands scientifiques, les mathématiciens, les physiciens, tout ça. Des audiobooks parfois aussi, des pièces jouées, un peu de tout. Là, en ce moment, je suis pas mal dans l'ésotérisme, j'aime bien.
Très bien, je vous remercie pour cet entretien. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite ?
De pouvoir continuer.
Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
C'était Steven Lejeune, dessinateur et auteur de bande dessinée, qui anime au sein de l'association L'Art et Création à Souston cet atelier manga que j'ai testé pour vous. Ça se passe le vendredi soir à 18h30 au Pôle Rezano. Les ados et les adultes sont les bienvenus pour tenter l'aventure. Si vous aussi vous voulez tester, renseignez-vous au 06 87 26 57 95 ou envoyez un message de contact via le compte Facebook de l'association. Voilà, ce numéro de J'ai testé pour vous est maintenant terminé. Merci encore à l'artiste Steven Lejeune pour son accueil et sa disponibilité pendant le cours mais aussi après le cours, car je sais maintenant combien le temps est précieux pour avancer dans l'illustration et l'écriture d'une bande dessinée. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois dans une autre émission où j'aurai testé autre chose pour vous. À bientôt.
Port d'Albret FM, une vague d'émotions.